C'est quoi comme race?
C'est pas un chien, monsieur Martin, c'est... Venez voir.
C'est que ça?
C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement.
Extraire une balle? Il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant.
CO2, mon amour.
Voilà, c'est chaud tout ça. C'est très chaud. Mais hein.
Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries?
Doucement.
Je vais peut-être l'amener ailleurs finalement, monsieur Martin.
Gentil.
Faudrait mieux le piquer.
Denis Chessou.
Bah oui, ça c'était pour faire plaisir à notre invité Marie-Claude Baumsol, vétérinaire, qui est avec nous en direct dans CO2 Mon Amour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. Avec à la technique Antoine Fortin et Philippe Duclos, et assisté de Claire Destacan, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission, mais on débute, comme vous le savez, par un petit billet. Ça te fait quoi, l'oiseau, la valse des ministres et des sous-ministres? Au milieu des tempêtes de taxis, de fumée de pneus, des cochons dont on a égorgé le prix de revient, des pesticides à tous les étages de sa vie, eh ben l'oiseau, il savait pas trop. Avec cet hiver trop doux, auquel il ne comprenait rien, il savait qu'un hiver sans gel, ce serait plus de pesticides au printemps, au jardin, que son assurance vie diminuerait. Oh, il était loin du grand jeu d'échecs élyséens. Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche, au centre, ma reine, mes fous, ma cavalerie, mon royaume pour un cheval. Dans ce nouveau tiercé, jouons placé. Oui, avec des sécessionnistes d'Europe Écologie Les Verts à l'affût depuis des semaines à renifler les postes, ça c'est de l'écologie de combat enthousiasmante. Oui, trois écologistes au gouvernement, trois coups de canif, alléluia ou alali. Rien de tel pour fragmenter un peu plus un parti vert déjà en soins palliatifs. Monsieur Hulot a décliné le poste, il est parti en vacances. Monsieur Hulot, les champs de mine, ça, il a donné. Plus tard, sa parole sera écoutée. Alors nous passons de 32 à 38 ministres, mais comment font? Avec nous, on a 38 ministres, comment font ces pauvres Allemands avec seulement 15 ministres, hein? Eh oui, il faut être solidaire, on va vous en donner. Un petit regret quand même, notre exécutif aurait dû penser dans ce nouveau casting à Maud Fontenoy, parfaitement soluble dans l'écologie aéroportuaire, l'écologie gaz de schiste, l'écologie OGM, l'écologie nucléaire. C'eût été un beau signe d'ouverture, mais on ne pense pas à tout. Alors l'oiseau était quand même bien content, car il a eu une petite victoire cette semaine. Il avait écouté CO2 Mon Amour le 23 janvier, qui lança avec les ONG la campagne de paysage de France contre le projet de décret qui devait multiplier les panneaux publicitaires dans toutes les communes de 10 000 habitants et donc saloper un peu plus la France. Ségolène Royal, que nous gardons volontiers aujourd'hui, a tenu bon et Monsieur Macron a dû plier, bon un peu, 60 000 signatures. Comme quoi les pétitions, ça peut marcher. Ne jamais sous-estimer ce que nous sommes. Les panneaux qu'il aime, l'oiseau, ils sont en bois, avec des branches et des feuilles photovoltaïques. Ça fait de la musique quand il y a du vent. On appelle ça des arbres. Et toi, la salamandre, t'es content de ce remaniement? Ah bah oui, on est sauvé avec une secrétaire d'État à la biodiversité. Alors première chose à faire pour elle, donc apprendre à ses collègues ce qu'est la biodiversité, à quoi ça sert, puisque seul l'utilitarisme et le prix de la nature sont audibles. Ensuite, nous ferons comme d'habitude le tri entre la com et les actes. Oui, mais moi je suis bien content du référendum, renchérit le triton marbré. Si ça peut éviter un nouveau Koh-Lanta à Notre-Dame-des-Landes et de me faire écrabouiller, hein, comme le souligne David Solon dans Terra Echo, les modalités précises du scrutin diront au final si le président Hollande joue carte sur table. Bon, effectivement, on est quand même conscient du léger décalage et du léger problème blocage démocratique dans ce dossier. Ou bien si en habile fils spirituel de François Mitterrand, il entend récupérer dans cette manœuvre le beurre, salé bien sûr, hein, mais, et l'argent du beurre. Question du référendum en avant-première, s'il a lieu. L'enfumage politique et la réalisation d'un aéroport sont-ils compatibles avec le réchauffement climatique? Hein? Comment? Alors, on posera pas la question comme ça. Ça, c'est trop orienté. Je comprends. En tout cas, on vous donnera les résultats sur les panneaux publicitaires de 50 mètres carrés qui, eux, seront autorisés autour des stades et que vive le vivant. Et nous allons débuter par une petite actualité, comme nous le faisons pratiquement toutes les semaines, avec Martine Vallaud du journal Le Monde. Bonjour Martine Vallaud.
Bonjour.
Alors Martine Vallaud, vous avez sorti là tout à fait récemment cette semaine, dans Le Monde, Saginta, écope à son procès, échappe pardon à son procès sur les pesticides. Alors Syngenta, on le rappelle, fabricant de pesticides, mais aussi de semences sélectionnées. Le géant de l'agrochimie a dissous l'une de ses filiales, poursuivie pour des épandages massifs illicites. Alors racontez-nous un petit peu, parce que en fait, après des années de procédures de la multinationale Syngenta, donc épinglée pour ses épandages, eh bien, on voit que ça va pas avoir lieu. C'est une affaire quand même qui remonte au début des années 2000. Racontez-nous, Martine Vallaud.
Oui, alors cette affaire se passe dans le Lot-et-Garonne. Il faut savoir que Syngenta a un centre à Saint-Sauveur, en Haute-Garonne, et ce centre, de temps en temps, a besoin d'éliminer des graines, des semences déclassées, généralement parce qu'elles sont périmées. Mmh. Dans ce cas-là, ben, il s'adressait à un agriculteur. Bon, il n'était pas, c'était pas le seul groupe à faire ça, hein, et c'était déjà assez discutable parce que c'est ce qu'ils appellent la technique du semis de haute densité, c'est-à-dire qu'on envoyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de semences sur quelques parcelles. Mmh. Ça peut être jusqu'à 1000 fois la dose du semis normal.
C'est beaucoup.
C'est vraiment beaucoup. Mmh. Et là, le problème surtout, c'est qu'une partie de ces semences était enrobée de pesticides. Alors, plusieurs pesticides, mais en l'occurrence, c'est surtout du gaucho, qui est un insecticide. Comme c'est un insecticide, il est fatalement dangereux, notamment pour les insectes. Mais
donc, ce qu'on appelle un neurotoxique est une vraie saloperie pour les insectes. Hein. Moi, je vais parler comme ça, d'accord. Okay. Ouais.
Bon, donc tous les hivers, on épandait donc chez cet agriculteur qui est mis en cause dans cette histoire, et ses voisins ont fini par s'en émouvoir, notamment un voisin qui avait un lac et qui trouvait que ses poissons et que la faune autour du lac n'allait pas
bien.
Bah
oui, il nageait sur le dos, bien sûr.
Bon, il s'en est inquiété, bon, il y a eu une plainte qui a été déposée, et pour tout dire, pour une fois, la justice a pris l'affaire au sérieux.
Oui.
Parce qu'il y a eu une enquête de gendarmerie, il y a eu des perquisitions chez Syngenta, il y a eu des analyses de faits, il y a eu des auditions. Enfin, l'affaire a été quand même très sérieusement menée, instruite. Donc, il ressortait parce que, par exemple, Syngenta avait dit qu'effectivement, il y avait eu 376 tonnes de semences qui avaient été enfouies de cette façon. Bon, après enquête, il ressortait que c'était 922 tonnes.
Oh, c'est deux fois et demi plus, c'est pas grand-chose.
Voilà. Et un dixième était enrobé de gaucho. Alors, le gaucho, c'est un néonicotinoïde qui est aujourd'hui...
interdit.
Interdit pour certains usages.
Oui, c'est ça,
et
pour certains usages, vous avez raison.
En Europe, sur les néonicotinoïdes. Il faut bien comprendre qu'un néonicotinoïde, l'enrobage, ça signifie que la graine elle-même est enrobée du produit, ce qui permet, une fois que la plante pousse, elle est intégralement traitée par le produit, de la feuille jusqu'à la graine. Voilà.
Et alors,
c'est dangereux pour l'environnement.
En fait, Syngenta donc disait qu'ils avaient procédé à du semis de haute densité, mais la justice, elle considérait que c'était un abandon de déchets. C'est ça,
abandon de déchets, et finalement, de quelques années d'instruction, donc Syngenta est poursuivi pour avoir éliminé des déchets phytopharmaceutiques enrobés de produits toxiques avec des effets potentiellement nocifs pour le sol, la faune, la flore. Et éventuellement même pour la santé humaine.
Alors, si Syngenta donc échappe à son procès sur cette affaire de semences, c'est parce qu'en fait la société récemment, donc c'était au mois de novembre, a été en novembre 2011, a été donc dissoute pour se fondre dans la maison mère. Alors et après, hop, terminé.
Oui, c'est ça, parce que l'affaire a fini par arriver au tribunal de grande instance de Paris, qui considérait que effectivement il y avait une infraction et qui décide de renvoyer Syngenta et l'agriculteur pour un procès en correctionnel. Donc ça c'était le 16 novembre 2011 et passe le 5 jours plus tard, donc la filiale de Syngenta qui est mise en cause est dissoute. Mais personne ne le sait, on ne l'a su que au mois de mars suivant, lors de la première audience du procès qui devait se tenir. Donc là, les juges n'ont pas du tout apprécié cette façon de faire. On considérait que cette dissolution était frauduleuse et on demandait, mais cette fois ça part vers un tribunal de commerce, d'annuler cette dissolution.
D'accord. Alors, juste rappeler que depuis 2003, la réglementation française ne permet plus d'éliminer donc les semences déclassées dans les champs. Ce qu'il faudrait faire, bon, c'est avoir recours à l'incinération en cimenterie, etc. Évidemment, ça ouais. coûte de l'argent, cette affaire-là. Donc, c'était peut-être plus simple aussi de laisser les graines dans les champs. C'est un peu
oui,
ça l'idée.
Oui, je crois qu'on ne se posait pas trop la question oui, pour ce qui est des graines et pour ce qui est des pesticides. On savait très bien que c'était de toute façon pas une façon défendable de se débarrasser de graines empreintes de pesticides.
Bon, et donc, il n'y a pas de procès. Il n'y aura pas de procès.
Voilà, l'histoire, c'est que ben, la société est en dissoute et il n'y aura pas de procès. Et c'est la fin, en forme d'impasse de cette histoire.
Et les Chinois peuvent racheter tout à fait tranquillement, donc Syngenta.
Voilà, Syngenta. Alors bon, il dit beaucoup que dans l'industrie agrochimique, on crée une filiale par produit. Ça permet de faire face aux risques, hein, c'est la tendance. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que Syngenta vaut beaucoup d'argent, puisque un groupe chinois public vient de proposer de leur acheter pour 43 milliards de dollars, 40 milliards, d'euros.
Oui, bon, millions, c'est rien, c'est un pourboire, ça. Donc, d'accord, oui, 43 milliards. En tout cas, un grand merci à vous, Martine Vallou, de nous avoir éclairé, donc, sur, parce que c'est vrai que ça passe pas forcément à la une des journaux, cette affaire-là. On peut saluer aussi, d'ailleurs, la Ségolène Royal qui demande le retrait de la mise sur le marché des herbicides qui contiennent du glyphosate. Alors aujourd'hui, on n'a pas de preuve absolue que le glyphosate est un cancérogène probable, mais en revanche, quand c'est mélangé à des adjuvants, et là, bon, il y en a un avec un nom qui s'appelle la thalo-mine, eh bien, là, ça peut faire effectivement des dégâts. Voilà. Et donc, c'est aussi autour des adjuvants. On en avait parlé d'ailleurs avec Gilles-Éric Serralini, avec Corinne Lepage, il y a déjà quelques temps sur ce sujet. Mais on commence donc à faire attention de plus en plus, ainsi aussi qu'aux épandages. Qui sont de plus en plus contrôlés. Voilà. Merci à vous, Martine.
Ça bouge du côté des pesticides.
Bah oui, ça bouge. Voilà. Et notre ministre aussi, de toute façon, elle connaît bien le sujet. Et dans quelques instants, bien, ce sera Marie-Claude Baumsel qui va venir avec presque toute sa ménagerie dans cette émission.
Tel en chemin, s'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie blottie au creux des bras. Mais où est la beauté? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie blottie au creux des bras. Remettre un peu de baume au cœur.
j'ai rien. Alors je veux une bête à moi.
Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix.
Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chien-là dans ma chambre. Miaou, miaou, miaou.
Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Ah bah oui, miaou miaou, ça n'a pas échappé à Xavier Pestudia. Bien évidemment, Simonon Granier de Fer, le chat. Voilà, pour nous lancer avec Marie-Claude Bomsel. Bonjour Marie-Claude Bomsel.
Bonjour Denis.
Alors, docteur vétérinaire, professeur au muséum d'histoire naturelle au sein du département des parcs botaniques et zoologiques. Et puis évidemment, vous avez accompagné le développement de la ménagerie du Jardin des Plantes pendant de très nombreuses années. Et donc, vous consignez votre histoire dans Mon histoire naturelle, vétérinaire auprès des animaux sauvages, aux éditions Artaud. Peut-être d'abord effectivement une petite réflexion, parce que vous avez quand même l'âme un peu écologique, me semble-t-il. Sur la notion de biodiversité qui est quand même extrêmement prégnante. Et on peut se dire aussi qu'à chaque fois que les choses vont mal, soit on crée une commission, ou bien soit on crée un secrétariat d'État, etc. Et tout. Bon.
Certes, mais personnellement, je m'en félicite malgré tout, parce qu'on n'a jamais parlé que du climat, de l'énergie, des choses qui finalement pour le public sont assez rébarbatives, et qu'il est temps un peu de reposer le problème de la biodiversité.
Très bien.
On oublie quand même qu'il y a à peu près un oiseau sur 10 qui disparaît, un mammifère sur 4, etc., etc. Et que la France, si vous voulez, est dans le top 10 des animaux qui disparaissent, oui, avec plus de 20% des oiseaux et 30% des poissons. Et il y a quand même un vrai problème en France. Mm-hmm. Donc personnellement, je m'en félicite. Et puis on aurait dit même un secrétariat de la nature, ça n'aurait pas été plus mal. Parce que biodiversité, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça fait scientifique.
Le mot, oui, oui.
Voilà. Alors, on a un ministère de l'Agriculture. Moi, je ne suis pas mécontente qu'on ait un secrétariat de la biodiversité naturelle.
Voilà. Bah, écoutez, nous l'accueillons. Nous verrons bien ce que ça donne donc après.
Non, alors, mais c'est ça. Ça, c'est autre chose.
Oui, mais
c'est
ça.
Ne
fait rien. C'est un petit plus. Et effectivement, je disais tout à l'heure, faut éduquer autour de ce thème-là. Même si le terme forgé par Monsieur Wilson, il n'est pas forcément le plus simple à comprendre. Mais on comprend très bien lorsque l'on fait le lien avec peut-être notre quotidien. Et alors, vous, ça a commencé, j'ai dit. Cette biodiversité, donc qui comporte l'ensemble du vivant.
Oui, vivant.
Dans ce vivant, il y a bien sûr les végétaux, il y a le monde animal. Et alors, pour vous, le monde animal, en fait, ça commence du côté de Versailles, parce qu'en fait, vous avez une éducation, on va dire, allez, versaillaise, bourge, bobo, anticonformiste.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai eu la chance ou la malchance de naître ce qu'on me disait d'être l'élite de la France, c'est-à-dire à Versailles, ville royale. Mais j'ai eu par contre aussi
qui fait des choses très bien sur l'environnement,
oui,
d'ailleurs.
Oui,
ils ont
chassé
les
très souvent,
bon
en fait,
boulot.
Il faut pas. Puis en plus, il y a le parc et en plan, etc. Donc j'ai quand même eu cette chance. Et j'ai eu par ailleurs la même chance d'avoir des parents naturistes écolos avant l'heure, mais naturistes purs et durs. Ah oui, carrément.
Naturalistes.
Mais pas
tels
naturistes, plus que naturalistes dans un premier temps. C'est moi qui les ai guidés vers le naturalisme.
Ah oui,
parce que vous savez, quand on est jeune, qu'on vous met déjà comme ça, surtout à mon époque, dans la nature tout nu, à dormir dans les grottes ou sous des petites tentes, à même le sol, vous avez assez peur. Alors la solution, c'est de s'occuper en somme. Et mon occupation a été de ramasser tout ce que je trouvais. Et on oublie qu'à cette époque, il y avait des milliers d'insectes, des milliers de scarabées, des hannetons, j'avais des grenouilles, pardon, je sais qu'elles sont protégées maintenant, mais à cette époque, il y en avait beaucoup, des reptiles, des chouettes, tout ça revenait dans ma chambre et faisait une grande cacophonie. J'ai élevé des dizaines de corbeaux, tout ça avait une chance, au milieu des chats, des chiens et tout.
Mais alors, oui, parce que là-bas, c'était 5 ou 6 chats et 2 chiens déjà.
Voilà,
c'était
la base de mes parents.
Bien sûr. Mais alors vous cherchiez en fait à combiner tout cela, de faire en sorte que ça s'entende bien, quoi, toutes ces bestioles. Et puis ça marchait pas.
C'est toujours mon rêve. Je suis tout à la fois versaillaise, donc princesse.
Bien sûr.
Mais j'avais vu les Walt Disney, donc je savais qu'à un moment je devais aller dans la forêt chanter, que les oiseaux allaient s'apparier, les biches venir à mes côtés et tout cela. Ça ne se passait pas du tout comme ça. J'étais absolument furieuse.
Ouais.
Mes chats guettaient les hamsters. Il y avait des corps donc qui s'envolait partout, qui allait arracher les poireaux du voisin, qui me hurlait dessus.
Oui.
Ma chouette ululait sous le parquet de mes parents, qui sortaient au petit matin, fou de rage. J'avais des pigeons qui faisaient partout. Ma mère amenait la boîte de petits pois en disant « Maintenant, c'est eux ou moi ?» Non, ça n'était pas simple, franchement.
Oui.
Mais enfin, bon, j'ai toujours espéré y arriver. Peut-être qu'à la ménagerie, j'y suis un peu parvenue, quoique loin de là. Mais ça a toujours été mon rêve. Et bon, malheureusement, maintenant, j'ai des petits-enfants et je ne peux pas leur réapprendre ça parce qu'ils n'ont n'ont pas la chance d'avoir tous les animaux que j'ai vus, moi. Oui. Donc, c'est peut-être plus simple pour eux de ne pas les voir, mais c'est regrettable.
Alors, Marie-Claude Baumsel, en fait, bon, après, il y a eu le lycée de la Canale, la préparation, donc, à Veto. On séparait bien les filles des garçons à l'époque, ou c'était un peu mixte, non?
Non, Veto, c'était mixte. C'était mixte. Oui,
avant, bah, oui, bon, j'espère bien, quand même.
Nous avions les blouses, bah, alors, bleu, rose et beige, et n'en avait pas avec les garçons.
Mais oui, mais non, vous m'en manquerait plus. Et, donc, Maison Alfort, alors là aussi, vous rencontrez votre époux. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez faire de la rurale, comme on dit, ou faire de la canine? Alors, la canine, c'est les chiens, les chats, on va faire très voilà. Simple. Puis la rurale, c'est évidemment faire vos vaches cochons couvés, quoi.
Voilà, tout à fait. Bah, parce que, étant versaillaise, j'ai d'abord essayé la canine. Bon, c'était déjà pas mon truc. En plus, je pleurais tout le temps avec les clients. Ah bah oui. Ils me disaient que des bêtises à mes yeux, ça n'allait pas du tout. Donc, je me suis dit, dans le fond, je viens. Notez, ouais. Ça aurait pu réussir, hein, que vous voyez le docteur qui pleure, hein, que vous comprenez, mais c'était pas la solution. Donc j'ai décidé de faire rural. À cette époque, c'est pareil, c'était des petites fermes, on peut pas oublier la Blanchette, etc. Ça, le rêve absolu. Et je me suis dit, voilà, là j'ai trouvé mon coin. Je suis partie dans la Marne, hélas, parce qu'on allait de ferme en ferme, mais on surveillait, on faisait de la prophylaxie. À cette époque, il y avait tuberculose, brucellose, on a quand même beaucoup avancé, mais surtout, à chaque fois, fallait boire un petit coup de champagne, ah, quelle oui. que soit l'heure. Qui fait que
le foie, au bout d'un certain temps.
Oui, au bout d'un certain temps, j'ai envoyé la voiture dans le fossé. Ouais, et en bon, plus, il n'y avait pas de fille. On était une fille pour 10 garçons. Et les paysans ont dit à mon confrère, mais enfin, ce petit garçon efféminé là que vous nous envoyez, il boit en plus et il ne tient pas. Oui. Donc j'ai vu que ça n'était pas possible non plus.
C'était surtout dit, parce que vous ne teniez pas que vous étiez, il y avait ce regard mauvais. Voilà, et non pas voilà. Parce que vous étiez forcément une femme.
C'est-à-dire qu'on a mis du temps à comprendre. J'avais les cheveux plus courts à cette époque, une casquette, vous savez, quand vous allez de vache en vache, comme on allait là, couvert de et de bouse, soyons oui. clairs, même plus, si elle vous pisse dessus, vous êtes vraiment impossible à déterminer au point de vue sexe. Hein. Oui. Donc, ils se sont dit, c'est un mec assez bizarre, qui tient pas l'alcool, donc c'est vraiment pas terrible.
Et alors après, donc, il y a quand même, voilà. on va pour, passer pour sur ce mur en voilà. Auxois, mais alors, comment on arrive à la ménagerie du jardin des plantes?
J'allais dire tout à fait par hasard, puisque je vais rencontrer mon mari, partir en Afrique, qui là aussi sera une sorte de déception, parce que une fois de plus, le rêve, j'allais rentrer en brousse et tous les animaux m'allaient m'apparaître. J'ai marché des heures et des heures durant. Quand vous n'êtes pas en safari, vous ne voyez rien. Oui. J'ai entreaperçu un oryctérope qui avait dû se gourer d'ailleurs parce qu'il aurait pas dû être là, qui est rentré dans son terrier.
Alors, rappelez-nous, parce qu'il y a 4 personnes qui connaissent l'oryctérope sur les 700 000 qui nous écoutent. Mais
voilà, c'est un fourmilier très laid qui est assez chauve, dont j'ai vu d'ailleurs juste un bout du derrière, un peu, que j'ai reconnu parce qu'il était glabre. Oui. Et je me suis dit, oh, j'ai vu la bête de ma vie. Au moins, j'avais l'air d'avoir quelque chose.
Peut-être que lui nous trouve moche aussi, hein.
C'est sans comme ça. Commentaire. Et ensuite, bon, j'ai travaillé un peu avec les bororos, donc là, qui sont les peules, et qui élevaient des troupeaux. Moi, j'alliais Afrique et, comment dirais-je, élevage. Et puis, finalement, pour des raisons diverses, j'ai dû rentrer en France. Je suis arrivée tout à fait par hasard au zoo, le temps de faire un stage, et les circonstances ont fait que je me suis retrouvée ensuite à la ménagerie. D'abord, définitivement, la ménagerie ne l'a pas pu repartir immédiatement en Afrique. Et surtout, j'ai retrouvé Versailles dans la ménagerie et du oui. Jardin des Plantes, les petits pavillons et tout. Marie-Antoinette est revenue immédiatement ouais. Et je me suis dit voilà.
D'accord. Bah écoutez, ce que je vous propose après, on va bien sûr poursuivre ce voyage avec vous. Mais alors nous ça va pas être des bêtes aussi exotiques, mais vous avez elles sont très intéressantes, on ne les voit pas. Je vais vous emmener en montagne. D'ailleurs, si vous êtes actuellement sur la route, vous allez vous dire ah bah tiens, il y avait ça au-dessus de nous. Alors bien sûr qu'on va parler de marmottes et de chamois et on va le faire avec Christian Couloumi. Alors Christian Couloumi, c'est notre monsieur montagne hein, depuis des années. Dans cette émission, qui vient de créer son association Envergure Alpine, parce que c'est un homme qui est vraiment un amoureux des rapaces, il en parle formidablement bien, et donc nous étions chez lui dans les Hautes Alpes, c'était l'hiver, ça tombe bien, nous sommes en hiver. Bonjour Christian Couloumi.
Bonjour Denis.
On est chez vous dans ce très beau département des Hautes-Alpes. On est dans ce parc national des Écrins. Nous sommes là dans cet hiver. À votre monde, Christian, on est à quelle altitude?
Bah 1825. Ouais, ah bah là, c'est déjà assez haut pour l'hiver.
Et on va s'intéresser donc aux animaux parce que bah nous, on a mis un pull vert, on a des chaussures qui vont bien, mais que font les animaux en fait en hiver ici?
Ils s'adaptent, ils résistent. Les générations ont réussi à contourner, à résister. Alors par exemple, les premiers, on va parler des hirondelles. Ouais. L'hiver arrive, plus d'insectes, il fait froid, direction l'Afrique. L'hiver, pour eux, c'est terminé. Les marmottes, une autre réponse. Hiver arrive, oulala, je dors dans mon trou. Oui. À bientôt, au mois d'avril, on se revoit. Oui. Pendant ce temps-là, je vais vivre au ralenti. Et puis, il y a ceux qui vont affronter directement l'hiver. Oui. Et l'hiver le plus dur, c'est celui qui est tout en haut de la montagne. Et on pourrait prendre un exemple très symbolique, c'est le Lagopède alpin. Le Lagopède alpin, c'est une espèce de poule, de la taille d'un pigeon, qui, première adaptation, change de couleur. En même temps qu'il change les plumes, tous les oiseaux mûs changent leurs plumes, eh bien les plumes de l'hiver sont blanches. Et l'oiseau se camoufle comme ça, est camouflé même inconsciemment peut-être, et il est à l'abri des prédateurs, plus ou moins quand même. Et puis, on l'appelle lagopède. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pied de lièvre, parce qu'il a des pattes très emplumées, tout le long, qui lui procure une espèce d'isolant thermique, des moon boots, moon boots du lagopède. Puis il est capable de manger n'importe quoi.
Ah.
Et il mange les quatre végétaux qui restent sur une crête ventée. Tout est blanc autour de nous, là, vous avez vu?
Et pourtant, il les repère, là.
En fait, le vent souffle sur les crêtes et enlève la neige, brosse un peu tout ça.
C'est ça.
Mais alors, qu'est-ce qui reste? Il reste des brindilles, de myrtilles, du bois pratiquement. Il est capable, de la gopette, de digérer un petit peu le bois et d'en tirer le meilleur parti.
D'accord.
Et puis, quand il fait très très mauvais, il se laisse ensevelir par la neige et sous la neige, il est dans un igloo. Donc tout va bien.
Alors, puisque vous parlez des animaux qui changent aussi de livrée, on a donc le lièvre variable. On a vu d'ailleurs effectivement une trace là il n'y a pas longtemps. Alors lui aussi, variable, pourquoi? Parce qu'il fait varier sa couleur.
Voilà, il se trouve que les lièvres blancs, il y a quelques milliers d'années, avaient plus de chance en hiver que les autres, et ils se sont reproduits, c'est eux qui ont pris le dessus.
Ouais.
Et en altitude, chez nous dans les Alpes, mais également dans les pays nordiques, le lièvre variable change chaque année, chaque saison, de couleur. Au mois de, à peu près octobre, il commence à muer, et il devient au début noir et blanc, poivre et sel, et puis tout blanc. Parfois, il est tout blanc et la neige n'est pas encore tombée. Alors là, on voit que lui. Et son astuce se retourne contre lui. Tous ceux qui sont susceptibles de l'attaquer le voient très très bien.
Là, vous ne le voyez pas, mais on a des flocons qui nous tombent sur le museau, quand même.
C'est l'hiver.
Absolument, c'est l'hiver.
Ça va les aider aussi. Ils sont adaptés à ça. Ils vont se mettre dans un trou de neige, comme ça. Et ils vont signer. Ça aussi, c'est quelque chose que l'hiver nous apporte. Alors, à nous, les hommes, c'est que ces animaux, on ne les voit pas.
Oui.
Mais ils nous laissent un petit message sur la neige.
Une petite plume, là, comme ça.
Oui.
Ils signent leur avec
leurs traces. Leurs pas.
Ça.
Et on peut, si on s'intéresse à ça, savoir ce qu'ils ont fait, en gros.
Oui. Hein.
Est-ce qu'ils ont sauté? Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils se sont arrêtés pour manger? On voit tout ça. Ils déposent de temps en temps de petites crottes, les lièvres. Et avec ça... Eh bien, c'est des histoires qui sont racontées par la nature elle-même.
Ouais.
Il suffit de savoir lire. Il faut apprendre à lire la nature.
L'hermine aussi, hein, change de robe.
C'est le troisième qui change de couleur, parce que tous les animaux changent de poils et de plumes,
ouais.
C'est normal. Mais c'est ceux en montagne qui changent véritablement de couleur, quoi. Il y a certaines belettes qui le font aussi, mais l'hermine, évidemment, elle garde le bout de la queue noire. Et puis, ses deux yeux, évidemment, ils ne viennent pas blancs. Et la pointe de son museau.
Alors il y a ces animaux-là, mais enfin il y a aussi tous les autres.
Eh bien quand on est à ces altitudes-là, il n'y a pas tous les autres. Ils viennent faire un tour, mais ils s'en vont. Alors les oiseaux, pour eux c'est facile, hein.
Ouais.
Ils ouvrent les ailes, ils font quelques kilomètres sans effort. C'est le cas par exemple de l'accenteur alpin, dont le nom indique bien où il habite. Il fait ce que nous on appelle un petit peu une transhumance, c'est-à-dire un coup de mauvais temps, il descend dans la vallée. Puis si ça dure, il va un petit peu plus loin. Et pour les Alpes, ils peuvent aller jusque dans les Calanques. Dans le midi, quoi, dans le sud de la France. Et puis il remonte dès que les conditions sont meilleures. Alors, comme lui, il y a les Nivrolles. Nivrolles.
Oui,
rien que le nom, déjà.
La neige. Ça
évoque la neige.
Oui,
hein. Et il niche près de la neige, la Nivrolle. Elle niche très haut en altitude, comme l'accenteur alpin d'ailleurs. Et si les conditions sont dures, il redescend.
Mm-hmm.
Les Ticodromes, un oiseau magnifique, qui court sur les murs, sur les murailles. Et il lui aussi descend dans la vallée quand il fait mauvais.
Un qui est adapté aussi, c'est le chamois. Hein. On a 1, 2, 3, 4, ils sont pas très bons, on a 4 sous les yeux là.
La vie est dure pour eux là.
Ouais.
Ce qu'ils vont manger, c'est pas très bon, ça repousse pas derrière, et il y en a pas beaucoup. Donc vous voyez, c'est une conjonction de facteurs. Et ils auraient besoin de beaucoup, puisqu'il va faire froid. il va falloir qu'ils produisent de la chaleur. Et pour produire de la chaleur, nous sommes des chaudières, il faut manger, quoi. Et pour eux, ben, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Donc, il faut éviter de les déranger, les regarder de loin. Mais ceux-là, ils sont peut-être un peu couillons, parce que si vous regardez bien, ils sont plein nord. Hein.
C'est vrai.
Moi, je serais chez moi, je serais allé de l'autre côté.
Alors, mon gars, là, pourquoi t'es pas au soleil, là?
Mais ils arrivent à passer l'hiver quand même. Alors, ils grattent avec le pied. Ben, tiens, il y en a qui le fait, là.
Ouais. Ah oui.
Ils grattent avec le pied, et puis ils trouvent un tout petit peu à manger comme ça.
D'accord.
Et, ouais. Et alors, ils arrivent au printemps, ils sont exténués, là.
Ah oui, dites donc, là, ils n'ont pas besoin de regarder des bouquins de régime alimentaire, eux.
C'est non, non, ils font
exténués. Ils sont perdus, là.
Là, ils sont diététiques, hein, l'hiver.
Ouais.
Il y a une conjonction de difficultés qui s'acharne sur les jours sans cours, donc peu de temps pour se nourrir. La nourriture, elle est peu abondante, elle se renouvelle pas. L'été, il ne pluie, l'herbe repousse, c'est pas le cas là. Donc c'est vraiment des conditions très très dures. Et la nuit, donc si le jour est court, évidemment la nuit est longue. Et la nuit, il fait froid. Et nous, on ne se rend pas compte de ça, parce que dès que le soleil commence à décliner, fondue savoyarde et tout va bien, quoi. Eux, la fondue savoyarde, c'est pas ça. Ils vont se trouver un endroit, ils vont se coucher, ils vont passer toute la nuit. Et le matin, il est loin, le matin. Là, il faut attendre 8h du matin pour que le soleil sorte. Et c'est là où il fait le plus froid. C'est là où le rayonnement nocturne nous a fait perdre toutes les calories. Et c'est ces minutes qui précèdent le lever du soleil, l'arrivée même du soleil sur nous. Il y a une espèce de chute brutale des températures avec un tout petit peu de vent. C'est terrible, alors. Je pense que ces animaux, évidemment, ils sont là depuis la nuit des temps, ils sont adaptés, ils savent faire, mais c'est quand même dur. Hein. Bravo, chapeau.
Bon, Christian, allez, on redescend doucement, parce que vous avez parlé de fondue, hein, je crois, c'est ça.
C'est ça.
Voilà, vous n'auriez pas dû, et ben voilà.
Ah oui, mais on va la partager quand même.
On va y aller, et on a une pensée pour ces animaux. Oui, retenez-moi, là, parce que
ça glisse, là. Ça va mal se terminer, l'histoire de la fondue, ça va être à l'hôpital,
oui,
là,
non, je pense. Non, non, on va être bien, non, vous inquiétez pas.
On y va comme ça.
Voilà, on y va doucement. Et ça ira bien. À bientôt, Christian Colomé.
À bientôt, Denis.
Pas très loin du vallon des Gourniers, pas très loin de Réalon, pour celles et ceux qui connaissent, au-dessus d'Embrun, donc Christian Colomé. Voilà, donc en montagne, notre monsieur montagne, on vous souhaite une bonne route, hein, si vous allez, si vous revenez actuellement de la montagne, eh bien oui, il y a donc tous ces animaux qui sont autour de vous, qui vous regardent, vous ne les voyez peut-être pas, vous n'allez pas tous les voir, il y en a plein, on ne peut pas les voir, enfin si on peut, mais il faut vraiment drôlement patienter, faut être à l'affût, ça se mérite, c'est comme ça la nature, hein. C'est pas simplement trois clics, hop, non, pas du tout. Marie-Claude Baume-Salé, bien sûr, toujours avec nous, mon histoire naturelle aux éditions Artaud, dites-moi là. Là, pour rester aussi un peu quand même dans un bel exotisme, je n'ai pas prononcé le nom de Nénette, je m'en veux beaucoup. Non, j'attendais, alors Nénette c'est votre copine orang-outan.
Voilà, tout à fait. Alors Nénette est arrivée un an après moi, donc je ne la connaissais pas encore, j'arrive dans cette ménagerie, donc nous étions là, et puis bon, j'ai été assez choquée, soyons honnêtes, on sait, la ménagerie du Jardin des Plantes, même si elle a une véritable beauté historique, il reste les vieilles grilles, beaucoup de choses que nous avons enlevées, mais qui perdurent un peu. Bon, ben voilà, j'ai commencé en tant vétérinaire, simplement, bon, déjà palpé de la bête, vous avez dit avec justesse qu'on les approche pas tellement, vous avez compris ma déception en Afrique, là j'en palpais, j'ai touché des autruches, j'ai touché des panthères, enfin j'étais dans un état de bonheur, jusqu'à un jour on m'a dit on va ramener deux orang-outans. Hélas, à cette époque de la nature, ça ne se fait plus du tout. Bon, voilà, j'ai pris ça, pas plus que ça. Moi, je suis une fan des ours et des lapins. Un orang-outan, ma foi, bon, c'est pas bien important. Hein. Mmh. Et puis, ils sont arrivés et j'ai vu Nénette et Toto, son premier mari, elle en aura d'autres, tout tapis complètement au fond d'une caisse, car à cette époque, songeons-le, effectivement, ils étaient trafiqués, hein, on est dans les années 70, c'est assez triste, j'avais 14 ans, on va dire. Bon.
Bien sûr. Vous êtes une surdouée, donc.
Et il a fallu la sortir de la caisse. Et bon, j'ai donc tiré un peu comme je faisais avec les animaux, je dis bon, je l'anesthésie pas et tout. Et elle est arrivée dans les bras. Je n'avais pas encore eu d'enfant. Et quand vous avez le bonheur, vraiment le bonheur, d'avoir brusquement l'animal qui vous enlace comme ça, qui se couche sur votre épaule et qui vous prend, mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est merveilleux, tout doucement. En plus, il vous embrasse en général. Et ça, ça m'est resté quelque chose de merveilleux, absolument merveilleux. Donc on a décidé de les garder un peu avec nous, tellement ils étaient affolés. Elle avait à peu près 3 ans, 4 ans. Le mâle avait 2-3 ans. Et nous les avons portés. resté pendant presque un mois, y compris en faisant les tournées vétérinaires. C'était une époque où le public n'était pas un obsédé du selfie, où on pouvait se promener en toute tranquillité, vous imaginez, dans un zoo avec un animal sur nous, avec le dos. Puis petit à petit, on l'a détaché et tout, et nous allons avoir une vie commune, pas des maris communs, des maris chacun, elle aura autant,
vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde pas.
Des enfants différents, voilà. Et elle est toujours à la ménagerie du Jardin des Plantes.
Donc, elle a 40 combien, là,
elle
cette gamine-là?
Elle a 47 ans, on va dire. Mais elle
c'est
est
pas mal,
frippée comme une vieille pomme,
parce
plus
qu'un
que moi,
quand
prétends.
Même, de, pas de problème. Non, parce qu'un orang-outan, quand même, qui est en liberté,
c'est 35 ans. En zoo, on va jusqu'à 50, 55 maintenant pour certains, mais c'est un des deux ou trois orang-outans les plus vieux du monde actuellement, tenus en captivité.
Et alors, orang-outan et huile de palme, faisons quand même le lien, parce que là, on est quand même du côté de Bornéo.
Tout à fait, ça m'a un peu déculpabilisé, quoique, bon, parce qu'entre-temps, ceci étant, on a eu des enfants qui ont été intégrés dans les plans d'élevage, donc ça m'a un petit peu aussi racinéré. Et puis surtout, j'ai eu la chance ou la malchance d'aller une première fois en Indonésie où j'ai vu la forêt telle que je l'imaginais, et une deuxième fois dernièrement où je n'ai plus vu effectivement que des plantations d'huile de palme à l'infini. C'est très impressionnant. J'avais la chance, moi j'étais pour la télé la seconde fois avec Nicolas Hulot, et on a traversé comme ça mais des champs entiers, vous ne voyez plus rien, et une toute petite bande de forêt parce qu'il reste un tourisme. Le tourisme se promène sur les rivières et il voit d'un seul coup le macaque, le gibbon, l'orang-outan coincé en fait sur cette bande de terre, et il a l'impression que tout va très bien. Mais rien ne va bien, madame la marquise. Derrière, c'est des kilomètres et des kilomètres d'huile de palme avec des animaux, des antilopes, il y a pas mal de serpents qu'on voit, et puis des orang-outans complètement perdus, et il n'y a plus grand chose à faire pour eux. La nuit, vous voyez les nazis qui essayent de pousser les macaques pour trouver un petit coin, parce que cette petite bande de terre et tout, on a croisé un orang-outan sauvage qui misérablement nous jetait une branche comme ça pour essayer de nous effrayer, complètement perdu. Et vous vous dites, tout ça pour mon shampoing, mes chips et tout. Et ça perdure et nous n'aurons pas l'étiquetage, à moins qu'un jour on y pense. Et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est compliqué de manger sans huile de palme. Mais mince, quand même, il suffit d'aller voir. Bon, c'est pas simple, hein, et on s'en rend pas forcément compte.
C'est difficile
compte.
Pour une population aussi qui ne sait pas ce qu'elle va devenir quelques jours après.
Tout à fait, oui. Je comprends très bien la population là, mais si on avait pu leur montrer à quel point ils avaient un patrimoine, une richesse de patrimoine, peut-être qu'ils auraient pu s'en sortir. C'est vrai qu'on a l'impression maintenant que c'est inéluctable et c'est vraiment dramatique. Ça fait vraiment un pincement au cœur.
On poursuit le voyage avec vous, avec on va bagnauder aussi, je sais pas, on va peut-être aller du côté des Galapagos. On va peut-être rejoindre aussi Jean-Marie Pell dans quelques instants.
Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Thank you.
taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Votre chien, c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit à aboyer comme un cinglé.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Eh ben nous on aime les bêtes, bah oui évidemment, avec Marie-Claude Bomsel, voilà mon histoire naturelle, bienvenue, si vous venez d'ouvrir CO2 Mon Amour, votre magazine d'environnement, vous êtes bien sur France Inter, n'allez surtout pas ailleurs, aux éditions Artaud, pas France Inter, mais votre bouquin, Marie-Claude Bomsel, vétérinaire, et tenez, alors si j'ai quand même envie que nous parlions des nouvelles tendances des zoos, parce que ça, beaucoup de gens se disent, ah bah oui, les animaux sont en cage, etc. Bon, qu'est-ce qui a évolué, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant dans les zoos?
Sincèrement, ils ont beaucoup évolué, bien parce sûr. Que je suis comme tout le monde, hein. J'ai envie qu'ils soient dans la nature. Nous voulons de parler des animaux dans la nature, à quel point ils sont rejetés dans des pourtours. C'est quand même ça qui reste fondamental. C'est ce qu'on appelle la conservation in situ, dans le milieu, si on peut. Mais les zoos se sont dirigés naturellement et par obligation légale désormais à la conservation ex situ, hors du milieu. C'est-à-dire, ils ont obligation d'avoir une reproduction et une réintroduction de certains animaux avec un soutien de programme à la in situ, c'est-à-dire qu'on réinjecte ou de l'argent, ou des données, ou des gens vont aider dans beaucoup de zoos, que ce soit les girafes du Niger, que ce soit le Madagascar pour le muséum, les pandas, bon, on le sait avec Beauval, mais énormément de zoos
de
maintenant
réinjectent. De la diplomatie chinoise, diplomatie animale, on va dire.
Voilà, là, c'est plus la diplomatie. Il n'en reste pas moins que, malgré tout, bon, il n'y a plus que 1600 pandas, même s'il y a une grosse discussion de l'aspect commercial. Bon, on sait que les Chinois prennent de l'argent là-dessus. Ils nous disent qu'ils réinjectent. Moi, j'étais en Chine deux fois. La deuxième fois, on nous a montré des coins de réintroduction. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais il y a là aussi une conscience écologique. Faut pas aller trop vite, hein. Mm-hmm. Et pour les zoos, en plus, bon, alors, pas forcément à la ménagerie du jardin des plantes, mais au muséum, on a ouvert Vincennes avec difficulté, on connaît les difficultés. Malgré tout, pour les animaux, c'est un plus. Et puis, beaucoup de zoos maintenant ont ouvert des parcs, on fait énormément de choses. On fait ce qu'on appelle du training pour les animaux, c'est-à-dire qu'on va les habituer à ne pas avoir trop de stress. On va, par exemple, Nénette, qui a eu énormément de mal à s'y mettre parce que c'est une vieille dame, elle sait désormais ouvrir la bouche pour prendre un comprimé. Autrefois, c'était très compliqué. Il fallait lui prendre dans le thé que cette dame voulait prendre ou pas prendre, nous le recracher, tout. Là, elle sait, on fait un signe, les soigneurs sont très impliqués, elle peut prendre un comprimé, on peut lui faire une piqûre sans problème. Tout cela a été extrêmement travaillé avec donc en plus des plans de réintroduction.
On va poursuivre avec vous Marie-Claude Bomsel. Moi ce que je vous propose c'est de réentendre cet homme que nous aimons qui est Jean-Marie Pelt, qui était Jean-Marie Pelt, il l'est toujours, mais bon il est parti le 23 décembre avec une très jolie fable écologique systémique qui met en scène de nombreuses espèces marines au bord du Pacifique et en général ça commençait par... Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous partons au bord de la mer et on va s'intéresser à la fois aux orques, aux loutres, aux étoiles de mer, il doit me manquer encore quelque chose, et aux algues.
Absolument.
Voilà. Allez, racontez-nous cette histoire.
C'est une belle histoire écologique. Ça se passe en Alaska. En Alaska, on a une mer qui est extrêmement poissonneuse. Et pour cette raison, évidemment, surexploitée. Surexploitée au point que, qu'elle n'est plus poissonneuse. Qu'on ne peut plus l'exploiter.
C'est ça.
Qu'elle se repose en espérant qu'un jour les poissons reviendront. Alors, sur cette côte, il y a des loutres de mer qui sont des animaux protégés. Et on s'est aperçu que les populations de loutres auxquelles personne ne vient porter préjudice s'appauvrissent. Et on se pose la question, pourquoi y a-t-il de moins en moins de loutres puisque personne ne va tuer les loutres? Est-ce qu'elles ont une maladie? Non, Alors qu'est-ce qui leur arrive? Alors on est en train maintenant de faire des recherches du point de vue écologique, et l'on s'aperçoit que les orques, qui sont des mammifères marins...
Et qui ne savent pas que la loutre est protégée, d'ailleurs.
Qui ne savent pas que la loutre est protégée.
Ils ont produit les textes. Hein, donc.
Ne trouvant plus de poissons, puisqu'ils se nourrissaient de poissons, se sont reconvertis en consommateurs de loutres. Et par conséquent, ben, les loutres voient leur population se rapetisser considérablement. Alors les loutres, elles, se nourrissaient d'oursins. Et comme il n'y a plus beaucoup de loutres, la conséquence, c'est que les oursins s'en trouvent très heureux et prolifèrent. Et il y a de plus en plus d'oursins et de moins en moins de loutres. Bon. Alors ces oursins se nourrissaient d'algues. Comme il y a énormément d'oursins, les oursins mangent les algues. Et il y a de moins en moins d'algues. Et comme il y a de moins en moins d'algues, eh bien les alevins n'ont plus un lieu dans lesquels ils se transforment en poissons.
Il n'y a plus de pouponnière, quoi.
Tout à fait. Il n'y a pas de pouponnière non plus pour les crustacés. Il n'y a pas de pouponnière non plus pour les mollusques. Et le milieu devient désertique. Et le littoral devient minéral, puisqu'il n'y a plus d'algues. Et comme ce milieu algal ne peut plus nourrir tout ce monde-là, eh bien ce monde-là n'est pas nourri, et puis les alevins ne donnent pas de poissons. Et donc, il n'y a plus de poissons. Et donc, comme il n'y a plus de poissons, eh bien, les orques mangent les loutres. Les loutres ne sont plus assez nombreuses pour manger les oursins. Les oursins mangent toutes les algues. Il n'y a plus d'algues. Donc, il n'y a plus de poissons et ça tourne en rond. Et ceci est très intéressant parce que ça montre bien que quand on a détruit un équilibre naturel, il n'est pas complètement évident qu'on puisse le remettre en route après. C'est exactement ce qui se passe à Terre-Neuve avec les morues. Les morues de Terre-Neuve ont été surexploitées. On a arrêté la pêche à la morue en 1992 et on s'est dit, eh bien, dans une vingtaine d'années, les morues sont revenues. Elles ne sont pas revenues. Elles ne sont pas revenues. Alors là, c'est moins simple parce qu'on se creuse le cerveau pour savoir pourquoi donc les morues ne sont pas revenues. Alors il y a une hypothèse qui tient la corde et qui me paraît assez fondée. C'est que les morues se nourrissaient de plancton et que le plancton a changé dans sa composition en raison du réchauffement climatique. Et que certaines espèces du plancton ne sont plus là parce qu'elles ne peuvent pas survivre au réchauffement. Et c'était ces espèces-là que mangeaient justement les morues. Donc les morues n'ont rien à manger. Donc elles ne sont pas là, il n'y a plus de morues. Donc on voit ici que quand on a surpêché dans deux cas particuliers, l'un à l'ouest sur le Pacifique et l'autre à l'est sur l'Atlantique, on arrive au même résultat, c'est qu'on n'arrive plus à reconstituer artificiellement, en quelque sorte, et par des mesures de protection, le fonctionnement des écosystèmes. Et par conséquent, on a appauvri l'écosystème terrestre de deux écosystèmes très importants, qui sont des écosystèmes marins, en l'occurrence, mais la mer fait partie de la planète Terre.
Alors qu'on a des écrits au Moyen-Âge, alors évidemment qu'il n'y avait pas près de 8 milliards d'individus sur Terre, on est bien d'accord, où l'étrave des bateaux était envahie par des bancs de morues. Il y en avait absolument partout.
Tout à fait.
Et c'était considéré comme une manne divine, d'ailleurs, aussi.
Tout à fait, mais c'était les Terra Nova, les Terres Neuves, et les Terres Neuves, c'était une manne divine. Oui. C'est-à-dire que quand on partait de la Bretagne ou d'ailleurs pour Terre Neuve, personne ne se posait la question de savoir si les bateaux reviendraient avec ou sans poissons. Ils revenaient bourrés de poissons, et ça a duré pendant des siècles. Et puis, on a fini par, effectivement, épuiser la ressource. C'est-à-dire qu'on a plus pêché qu'il y a eu une reproduction naturelle des morues.
Merci Jean-Marie pour cette histoire, et on se retrouve bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et oui, quand ça collera avec le sujet, je vous l'avais promis, puis c'est aussi une de vos demandes. De temps en temps, je sortirai une petite histoire comme ça de Jean-Marie Pelt, qui sera toujours d'actualité. Évidemment, les choses d'actualité, on ne les passera pas. Mais vous pourrez retrouver aussi, Jean-Marie, un dernier ouvrage qui est reparu aux éditions Fayard, qui s'appelle « Les voies du bonheur », donc avec une quête spirituelle aussi derrière, qui ne va pas vous surprendre de la part de Jean-Marie Pelt. Marie-Claude Baumsel avec nous, qui a aussi connu, bien sûr, Jean-Marie Pelt. J'ai envie de venir avec l'actualité quand même sur ce qu'on appelle les maladies dites émergentes. Alors ça aussi, c'est assez assez intéressant. Mondialisation, on le sait, l'aviation, les marchandises, donc où on est, et puis réchauffement climatique.
Voilà, mais c'est surtout, Jean-Marie, j'allais dire, vient de décrire un déséquilibre écologique. Lui, il parlait de l'aspect marine, là, je peux parler de l'aspect terrestre. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, il dit, c'est d'actualité, vous dites, c'est d'actualité, ça l'est de plus en plus. On nous bassine, si je puis dire, actuellement, par des vagues de nouvelles maladies, le West Nile, celui qui il y a eu un problème à New York en 2000 avec un virus qui attaquait à la fois les hommes et les chevaux, qui était introduit soi-disant par les animaux migrateurs. Ensuite, on a eu le SRAS, si on s'en souvient, c'était les civettes. Ensuite, il y a eu l'Ebola, c'était les singes. Et maintenant, c'est ce qu'ils appellent les arbovirus, c'est-à-dire tous les moustiques, dengue, chikungunya, Zika, maintenant. En fait, d'où cela vient? Du fait, tout simplement, qu'il y a une déforestation complète et de la planète, une désertification, et un changement complet de la faune de actuelle, un rapprochement des hommes de tous ces animaux pour ce qui était
juste
Ebola.
Que l'on comprenne bien, pardonnez-moi, le mécanisme c'est très important. On l'a peut-être déjà dit, mais on va le rappeler. Lorsque l'on dégage une forêt, lorsqu'on a des forêts, donc les animaux doivent aller ailleurs. C'est-à-dire qu'ils étaient là cantonnés, ce qui était le cas d'ailleurs de Ebola. Il était cantonné dans sa forêt
voilà,
africaine.
Voilà, Ebola était là avec les singes. En plus, en général, il y a une coévolution d'un virus avec un groupe d'animaux. Et tout va très bien, si je puis dire. Bon, il y a quelques singes qui meurent, ça fait partie de la nature et de la logique. Et puis un jour, par exemple, Ebola, on déboise, et puis petit à petit, les singes se rapprochent, et les hommes aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont une ouverture. Les antilopes suivent également les singes pour chercher de la nourriture. Au-dessus, il y a des roussettes frugivores qui, elles, portent également l'Ebola. Et à ce moment-là, l'Ebola tue les singes hein, et tue les antilopes. Les roussettes, elles, qui sont ce qu'on appelle le réservoir, non, c'est l'hôte naturel. Elles étaient là avec leur virus, elles font des excréments, tout le monde mange ça, le singe meurt, l'antilope peut être mangé par l'homme et l'homme peut ramasser des fruits qui ont été touchés par les excréments des chauves-souris. Les moustiques, bon bah, ils traversent, on le sait désormais, par les avions et en plus ils sont de plus en plus abondants. C'est pas par hasard. Par exemple, le Zika, c'est au Brésil, mais moi j'ai été souvent au Brésil. Vous voyez des champs de soja partout maintenant. Il y a des inondations récurrentes. Alors on dit, faites attention avec vos bols de terre et tout. C'est pas là le problème. Il y a des flaques partout. Il y a des moustiques de plus en plus nombreux. En plus, les moustiques, il y a 4000 espèces, je crois 200 à peu près, qui piquent. Mais tout ça va faire que toutes ces maladies vont apparaître de plus en plus.
Et donc il va falloir vivre avec ça.
Voilà, il va falloir vivre avec ça, plus le réchauffement climatique, comme vous l'avez dit, qui permettent maintenant, on l'a vu pour la fièvre catarrhale des moutons, les moustiques remontent maintenant et nos moutons sont atteints de ça et on attaque en disant que c'est le loup.
C'est ça, oui, bah oui, parce que... et bah voilà.
Voilà.
Mon histoire naturelle, vétérinaire auprès des animaux sauvages de Marie-Claude Bomsel, c'était aux éditions Artaud. Merci à vous, à Antoine Fortin, Philippe Duclos était à la technique, Claire Destacan, notre assistante, Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Thierry Dupin qui a choisi donc les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2, n'hésitez pas, hein, le franceinter.fr, vous le connaissez, CO2 mon amour, là aussi, bah allez-y, exprimez-vous, lâchez-vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez converser. 01 56 40 40 35, le podcast et l'atelier Mon Petit Loup, ce sera demain après les petits bateaux à 19h54.